Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi ? Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle.
Bienvenue dans 9 mètres carrés, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast, toujours plus étudiant et vivant, qu'on prépare entre nos stages, nos examens, nos concours, avec énormément de plaisir, pour des sujets qui nous passionnent, qu'on découvre parfois comme celui d'aujourd'hui, et qu'on aime ici à Grande Contrôle tenter de comprendre avec notre œil d'étudiant. Alors avant toute chose, des présentations, parce qu'aujourd'hui on a des nouvelles personnes dans ce podcast, on a Kenza avec nous.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Kenza, j'ai 22 ans. Je suis en master d'édition et d'audiovisuel à Paris 4. Et voilà, donc c'est la première émission à Grande Contrôle sur le podcast 9 mètres carrés. Un peu d'appréhension, mais très contente.
Eh bien, bienvenue. On n'a pas encore trouvé de prénom, c'est la tradition. C'est donc, il va falloir potasser pour le mois prochain. On essayera. Charlotte, t'as toujours pas d'idée ?
Non ? Non, toujours pas. Je sais qu'elle est pétillante, qu'elle a pas la langue dans sa poche et que ça va très bien se passer, mais j'ai pas encore de nom pour elle.
Bon, eh bien la prochaine fois. Et bah donc on est aussi accompagné de toi, Charlotte, toujours là, Femini Beach.
Toujours là.
Et on sera aussi accompagné d'Anaïs qui nous rejoindra plus tard pour nous présenter un très beau reportage sur la cité fertile. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, un peu particulier, c'est un sujet encore un peu pas assez exploité et qu'on espère vous faire découvrir, ce sont les tiers-lieux. Alors remettons tout en contexte, déjà de 1, breaking news, le lieu où on enregistre, c'est un tiers-lieu. De 2, breaking news encore, c'est ce lieu fête ses 1 an. Alors on s'est dit que ce serait pas mal d'en parler à travers cette problématique. Et le tiers-lieu, qu'est-ce que c'est ? Nous on s'est dit, est-ce que ce serait pas le défi de la capitale de demain ? Bon, on vous rassure, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Charlotte, tu savais ce que c'était, toi, en préparant l'émission ?
Eh ben non, je savais que, enfin, pour moi, le tiers-lieu, c'était un lieu qui reprenait, en fait, des bâtiments qui étaient laissés un peu à l'abandon. Mais alors, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait se cacher derrière...
Derrière ce mot. Et toi, Kenza ?
Pour moi, le tiers-lieu, c'était un endroit un peu conceptuel, bon, qui s'organise autour d'un concept un peu écolo et tout, mais je ne savais pas du tout par exemple que c'était dans des anciens bâtiments ou des choses comme ça. Et pareil, j'ai un peu découvert la définition en faisant l'émission en fait. J'étais allée dans des tiers-lieux sans savoir que c'en était.
On va la faire un peu court pour commencer, on va donner une petite définition parce qu'on va avoir du beau monde dans ce podcast qui vont nous parler de ce que c'est. Alors, pour comprendre déjà un tiers-lieu, c'est déjà un lieu qui se cache derrière un concept innovant. C'est créer des synergies autour d'une idée. Je m'explique, ça peut être un concept écolo, solidaire, artistique et même tout ça à la fois. Ça mêle plusieurs activités et donc en fait, c'est un peu un lieu de vie. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on critique souvent Paris et son métro, boulot, doudou. Mais ces Parisiens froids et stressés, parfois, en fait, ils se retrouvent dans des lieux où il se passe de belles choses. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Si vous n'avez toujours pas compris, ne paniquez pas, on va vous aider. Et déjà, premier conseil, venez à Grande Contrôle, ça vous fera un petit aperçu. Et puis, écoutez la suite de ce podcast, c'est déjà un bon début. Au programme, on accueillera Mathilde Giraud, la reine de Ground Control, qui viendra nous parler de ce tiers-lieu dans lequel nous enregistrons. Kenza s'amusera à critiquer la communauté qui peut se créer autour de ces lieux boboisants. Anaïs, avec la Cité Fertile, nouveau tiers-lieu, qui prolonge son concept en lançant une formation de ces nouveaux lieux. Charlotte s'est rendue au 59 Rivoli, tiers-lieu artistique où elle vous emmènera à travers sa déambulation dans cet ancien squat. Nous parlerons aussi des étudiants au sein de ces espaces avec Thomas Millet qui a créé un festival solidaire et gratuit. Bienvenue dans 9 mètres carrés. Bonjour Mathilde.
Bonjour Laura.
Mais tout d'abord, joyeux anniversaire.
Merci.
Ça te fait quoi? C'est un an?
C'est passé à toute vitesse. Donc on a du mal à se rendre compte que ça fait déjà un an, mais ça fait un an, oui, en effet.
Parce
un
que
an,
du coup,
en ouvré, j'ai un souvenir du premier jour d'ouverture d'ailleurs de Ground Control Gare de Lyon. Il neigeait à gros flocons le premier jour où on a ouvert et on s'est posé la question, on s'est dit mais est-ce que les gens vont venir? Parce que voilà, à Paris quand il neige, plus personne ne bouge. Et ben oui, ils sont venus. Voilà.
Parce que du coup, Mathilde, tu es la directrice de la programmation au sein de Ground Control.
Alors moi, je suis responsable de l'éditorial.
Donc
c'est, effectivement, ça inclut la programmation, la communication et puis ce média dans lequel on est aujourd'hui.
Alors est-ce que déjà, tu peux nous raconter, tu nous parlais de la neige là à l'instant, mais comment est-ce que est née l'histoire de Ground Control?
Alors, l'histoire de Ground Control, c'est une histoire qui va fêter ses 6 ans. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fête les 1 an de Ground Control Gare de Lyon, mais on va bientôt fêter les 6 ans de l'aventure Ground Control, qui a démarré en juin, je crois, il y a 6 ans, donc on n'est pas tout à fait à l'anniversaire encore, à la Cité de la Mode et du Design. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, c'est ce qu'on appelle aussi... truc vert, qui est sur la scène. Et la première année, donc c'était un été, Ground Control a occupé cet espace en rez-de-scène, en fait, qui était un parking à l'origine. Avec l'impulsion donc des acteurs d'aujourd'hui, toujours, hein, l'agence de la Lune Rousse, qui à l'époque, on fait le constat qu'il manquait à Paris un lieu un petit peu inspiré de ce qui se passe à Berlin, ce qui se passait à Berlin déjà à l'époque, ou à Brooklyn. Donc des lieux un petit peu décalés, où les gens pouvaient se retrouver de manière assez, assez détendue, cool, boire des coups, écouter de la musique, regarder une expo, voilà, et puis voir le temps passer comme ça, gentiment. Plutôt l'été, donc dans des espaces qui sont ouverts, pas couverts justement, c'est comme ça que Ground Control a démarré. Et puis cette première année, ben, ça a été plutôt un premier succès, ce premier été-là. Et ça a donné l'envie de continuer. Et pour continuer, en fait, on a eu la chance de rencontrer des gens de SNCF Immobilier qui étaient en train de réfléchir eux-mêmes à une façon d'exploiter leur friche, donc les lieux dont ils partaient, avant que ces lieux-là ne deviennent autre chose et ne deviennent des projets immobiliers à part entière, donc impliquant des travaux, une transformation, etc. Donc, dans un entre-deux-vie de ces lieux, en fait, il fallait faire quelque chose. Et est né le projet Ground Control deuxième année avec la SNCF Immobilier dans un centre de réparation des locomotives, en fait, qui étaient donc désaffectées dans le 18e, rue Ordener. Et donc, ça a été la deuxième année de Ground Control. Ça a aussi été un gros succès cette deuxième année-là. Donc c'était par rapport à la première année, on y a rajouté davantage de restaurants, enfin davantage de points de vente de food, et puis une programmation un petit peu plus étoffée également, etc. Des cours de danse, de yoga, voilà. Donc on a commencé vraiment à dessiner ce qu'allait être Ground Control à partir de là. C'était toujours un lieu éphémère ouvert uniquement l'été, en extérieur. Donc on a refermé à l'automne et puis on est reparti toujours au même endroit l'année d'après, l'été d'après, avec encore plus d'espace et plus de programmation. Et là, je crois qu'on a accueilli quelques 700 000 personnes sur 4 mois. Donc là, vraiment, c'est le énorme. Succès était plus que confirmé. Donc Ground Control était lancé. Et on avait cependant l'obligation de partir de ce lieu, puisque justement, comme tout bon tiers-lieu, on était entre deux eaux. On attendait que le projet immobilier prenne le relais, ce qui a été le cas. Et donc, on a cherché un autre endroit, un autre emplacement. Et on s'est arrêté sur ce lieu où on est aujourd'hui, qui est à côté de la gare de Lyon, donc 80 rue du Charolais, qui était un ancien centre de tri postal, donc occupé à la fois par... Donc ça appartient à la SNCF, mais c'était aussi exploité par la Poste. Et c'était une friche. Et donc, on a posé nos bagages ici. On a ouvert en été uniquement l'extérieur. Et puis, on a refermé en octobre pour faire des travaux, pour aménager l'intérieur de la halle dans laquelle on se trouve aujourd'hui et ouvrir, donc, il y a un an, l'intégralité de ce lieu qui fait pas loin de 6000 m² si on compte l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est quand même relativement grand. Et avec une nouveauté qui était que, ben, pour la première fois, ce lieu était couvert, donc pouvait être ouvert toute l'année. Et accueillir le public, non pas uniquement l'été, mais également l'hiver, avec là aussi, du coup, pour nous, l'obligation de travailler sur une programmation artistique, culturelle et des rendez-vous beaucoup plus denses, en fait, que les années précédentes.
Et donc, maintenant, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Grande Contrôle ? Comment on pourrait le définir ?
Alors, Grande Contrôle, c'est un lieu de vie, avant tout. C'est comme ça qu'on aime à le définir. Donc, c'est un lieu où les gens viennent pour passer un moment, seuls ou accompagnés. Et on essaie de proposer aux gens sans obliger. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on aime bien dire que finalement, à Grande Contrôle, il y a aucune... on n'est pas obligé de se conformer à un style, à une programmation, à des horaires, etc. Les gens viennent et sont relativement libres. Je crois que c'est ce qui fait que d'ailleurs ça marche et ça plaît. Et à partir de là, nous, on propose. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? On propose, d'une part, un lieu qui est festif, qui se veut festif et agréable et divertissant. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, à la manger avec les restaurants, les bars. Donc, il y a une partie de la population qui vient ici simplement pour se retrouver, manger un morceau, passer un bon moment. À l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis après, on a des choses plus de l'ordre de qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre ou découvrir à Grande Contrôle. Donc il y a toute une gamme d'ateliers ou de cours qui sont là de manière récurrente tout au long de l'année, chaque semaine. Alors on peut faire des ateliers d'écriture, on peut faire du yoga, on peut faire du dessin, on peut faire de la danse. Et puis de temps en temps, on a des ateliers qui vont être plus thématisés en fonction de la programmation qu'on a. Donc là, on vient de sortir d'une programmation sur les clean tech, les green tech, donc tout ce qui est technologie verte. Donc on a aussi monté des ateliers sur ces thématiques-là. On va rentrer dans une programmation sur l'écriture, se remettre à écrire. Donc on va aussi proposer davantage d'ateliers d'écriture à ce moment-là. Voilà, donc il y a des choses récurrentes, il y a des choses plus ponctuelles et plus événementielles. Et puis ensuite, on a des vrais gros rendez-vous, donc avec des conférences, des concerts, des pièces de théâtre, des expositions qui vont là aussi venir nourrir une programmation thématique.
En fait, ce qu'on dirait, c'est que derrière ce que tu viens de décrire, c'est un peu un mode de vie parisien, qu'on pourrait dire. Enfin, quand on imagine Paris, on imagine rarement en fait un lieu où on pourrait tous se retrouver. On va aller prendre un verre quelque part, on va aller voir une exposition. Mais l'idée même de se réunir et d'avoir tout ce mélange-là, c'est ça en fait que vous voulez créer derrière. C'est un mode de vie.
En fait, je crois que tu touches du doigt là la notion même de tiers-lieu. C'est-à-dire que tiers-lieu, il y a plein de définitions, mais je crois que ce qui nous unit un petit peu, ce qui unit tous ces acteurs-là, c'est cette notion de comment en fait on recrée du lien social dans une grande ville en général, ou dans un espace urbanisé en tout cas. Et on permet aux gens de se retrouver, en effet, quelque part. Comme par définition, le tiers-lieu, c'est quelque chose qui est différent de tout ce qui existe. Donc, ce n'est ni une école, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une entreprise. Mais ça pourrait presque être tout ça à la fois, de manière un petit peu réinventée. Donc, en effet, c'est un lieu où les gens vont pouvoir se retrouver. Ça peut être comparé à une place de village, finalement, aussi, parce que, on se pose et puis on voit des gens, on croise des gens, on discute de sujets qui peuvent être des sujets d'actualité ou qui peuvent être des sujets de fond. Et puis on peut faire des choses aussi. On peut apprendre des choses, mais on peut aussi proposer des choses. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on est très ouvert aussi à des propositions qui vont venir de l'extérieur, que ce soit dans la programmation ou que ce soit aussi à la radio, puisque beaucoup d'émissions de la radio Grande Contrôle sont portées par des gens qui viennent de l'extérieur de l'équipe et qui ont des projets qui correspondent en fait à nos valeurs et à ce qu'on a envie de développer.
D'ailleurs, Kenza, je crois, toi, ta première expérience à Gain de Contrôle, c'est assez amusant. C'est-à-dire, tu...
Ouais, bah en fait, moi, je suis venue avec deux copines qui en avaient entendu parler par leurs sœurs, leurs amis, etc. Et en fait, on est venus sans savoir ce que c'était. On nous a juste dit que c'était un endroit où on pouvait venir prendre un verre, etc. Et en fait, quand on est venus, on a vraiment vu cette espèce d'énorme lieu où il se passe plein de choses, où on peut manger plein de choses. Enfin, c'est vraiment... très très divers,
varié, ouais.
Ouais, très varié, et en fait oui, du coup j'ai appris que c'était un tiers-lieu en faisant cette émission, et en fait je continuais de venir là sans savoir que c'était un tiers-lieu et juste en profitant des différentes choses proposées, quoi. Donc vraiment hyper agréable à découvrir.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand le nombre de tiers-lieux, on va voir au fur et à mesure du podcast, mais le nombre de tiers-lieux dans lesquels on est allé, on ne sait même pas en fait que ça en est un. On se dit, tiens, c'est un musée qui est un peu différent, tiens, c'est un bar où il y a aussi des expos, des artistes qui sont là. Donc c'est vraiment une définition, je pense, qui va être totalement... Enfin, je me demande même s'il existe une définition, si ce n'est l'expérience ou le...
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on peut même se poser la question de à quoi ça sert de vouloir absolument mettre une étiquette sur un lieu, finalement. C'est amusant, parce qu'il était temps, certainement, de réinventer des espaces de vie dans les villes où il se passe autre chose que des choses très structurées qui rentrent dans des tiroirs. Voilà, je vais voir un concert, je vais à tel endroit, je vais au restaurant pour manger, et puis voilà. Donc, bon, après, qu'on essaie d'y apposer une définition de tiers-lieu ou d'écosystème, ou que sais-je... Pourquoi pas, mais c'est plus des définitions qui vont servir, je dirais, aux gens qui travaillent dans ce secteur-là qu'au public. Finalement, le public, il s'en fiche un peu de savoir s'il va dans un tiers-lieu ou s'il va juste passer un temps culturel ou divertissant.
Oui, c'est ça, parce que je pense que là, si la définition, on commence à la nommer, c'est parce que, bah, tout simplement, en fait, on commence à comprendre ce que c'est un tiers-lieu. Et justement, notre angle, un peu aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces tiers-lieux vont prendre place dans notre capitale demain. Donc, dans 10 ans, Grain de Contrôle, c'est quoi ? C'est quelque chose d'hybride, c'est encore plus d'événements, encore plus d'activités, c'est plus.
Alors, dans 10 ans, Grain de Contrôle, je ne sais pas et du tout. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour y répondre non plus, mais je pense que, par définition, on aime bien ne pas savoir ce que ce sera dans 10 ans. L'intérêt de ces tiers-lieux, en tout cas de Grain de Contrôle, c'est qu'on fait les choses vite. Et je crois que ce qui a manqué beaucoup jusqu'à présent dans les villes, dès qu'on voulait monter quelque chose, finalement c'est long, c'est compliqué, il y a des dossiers, il faut faire valider, il faut la préfecture, etc. Ça peut mettre énormément de temps en fait de monter quelque chose, surtout quand on a un peu d'ambition, que c'est grand comme ça, et qu'on accueille des publics, parce qu'il y a des responsabilités, etc. Il y a de la sécurité. Bon, tout l'enjeu de Grain de Contrôle, c'est de pouvoir, tout en respectant bien évidemment tout ça, tous ces enjeux-là de sécurité, d'accueil de public et de réglementation, c'est de pouvoir quand même aller vite pour inventer des choses. C'est-à-dire que nous, on n'est pas parfait, on teste, on expérimente en faisant les choses. Donc en fait, même depuis un an qu'on a ouvert, on a changé déjà plein de choses, et c'est ça qui est passionnant. Et on essaie d'être aussi à l'écoute, bien évidemment, des gens qui viennent, pour voir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, de quoi ils ont besoin, de quoi ils auraient envie, etc.
C'est quelque chose qui est en constante évolution en fait avec ceux qui font le lieu.
Et c'est indispensable, si là on touche du doigt ce que tu disais tout à l'heure, Laura, sur le rôle d'un tiers-lieu demain dans la ville, parce qu'il y a un rôle politique bien évidemment qui se dessine derrière tout ça, c'est sûr, même si on l'assume pas ou on l'affirme pas aujourd'hui fortement, parce que on n'est pas politique, mais la définition même de la politique dans la cité, oui, c'est ça. Donc il y a ce rôle là mais pour que ça marche, il faut qu'on soit toujours en agilité, en évolution, en adaptation. Et je crois que c'est les villes, et notamment les politiques des villes, comme les élus, qui vont pouvoir aussi regarder de près ce que l'on fait pour essayer en fait d'en tirer aussi des idées, des retours d'expérience qui pourraient devenir des choses plus pérennes au niveau de la ville.
Voilà. De la ville.
Et ça, si on arrive à faire ça, c'est formidable.
Bah, en tout cas, on fête les 1 an. Et c'est pour ça qu'on est là dans cette émission. C'est aussi grâce à Grand Contrôle qu'on fait 9 mètres carrés. Donc c'était super de t'avoir, Mathilde, au micro. Et puis on va aller continuer ces festivités. Je pense que vous pouvez trouver toute la programmation pour cet anniversaire de Grand Contrôle. Il y a pas mal de choses de prévues.
Absolument. Et, il y a des grandes fêtes, notamment sur tout le week-end. Donc on a les dates à annoncer quand même qui sont le 9 et 10 mars pour le week-end. On a un grand dîner le dimanche soir, donc je vous invite à vous inscrire. Un grand dîner avec tous les restaurants de Grand Contrôle qui vont participer, qui vont nous faire un menu aux petits oignons. Et puis la veille, le samedi, on a une boum pour les enfants l'après-midi et puis une boum pour les adultes le soir.
C'est bien.
Qui va aussi intégrer pas mal de surprises. Oui, voilà.
Bon, alors maintenant, on va être un peu moins... parce que là, on parlait de belles choses, on parlait d'énergie au sein de ces tiers-lieux, de quelque chose de très positif. Et puis Kenza, elle arrive dans 9 mètres carrés, tout de suite, elle se dit, bon, bah, moi, OK, je prends le sujet et je te le déconstruis direct. C'est un peu ça, Kenza, non ?
Oui, bah, c'est vrai que moi, quand on m'a dit tiers-lieux, je me suis dit, bon, bah, on va parler art, gentrification, écologie, concept bourgeois-bohème, hein, dit bobo, hein, le mot qui fait peur. Et est-ce que je me suis demandé, voilà, est-ce que je vais pouvoir parler de mon supermarché génial qui vend du bio en vrac dans des petits sachets en carton et des bocaux en verre, parce que voilà, finalement, l'écologie, c'est quand même méga important. Enfin bon, nous voilà tous réunis autour de cette table, on discute, on papote, on débat un peu aussi, voilà, parce qu'on a, plein de choses à dire. Et des bobos qui parlent de bobos, c'est quand même pas mal. Donc, tiers-lieu, est-ce que ça te parle à toi ? Mais si, c'est le petit endroit carrément trendy qui n'est ni ton foyer, ni ton lieu de travail. Alors, trendy, c'est le terme anglo-bobo pour dire que c'est tendance. Mais bah, comme on est bobo, on le dit en anglais parce que c'est beaucoup plus fashion. Bref, le tiers-lieu, c'est ce qui te permet d'échapper à ton patron sexiste et relou ou à ton mec qui n'en fout pas une à la maison. Le but, on l'a dit, c'est de créer des synergies autour d'un concept. Et un tiers-lieu, ça a pour vocation de ramener de la vie dans la ville, de rassembler les gens et de faire se rencontrer des personnes dont les chemins ne se seraient peut-être jamais croisés, qui sait. Entre le célibataire bobo et la famille bobo, il y a quand même un monde, hein, il faut se le dire. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, le tiers-lieu, c'est optimiste, c'est un challenge. C'est prendre le pari de recréer du lien social dans une société dont certains diront qu'elle est ultra connectée et où les gens sont parfois beaucoup trop nombrilistes. Alors, on a vu se développer ces lieux alternatifs. Grand Contrôle, dont c'est l'anniversaire, hein, happy birthday, la Cité Fertile, le 59 Rivoli, la Recyclerie ou encore le Nouma. Et bon, je m'arrête là parce qu'ils sont en pleine floraison et que si je devais tous les citer, je vous bassinerais avec ma chronique pendant de longues minutes. Alors, quand on parle de tiers-lieux, on parle de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble ? Je me suis renseignée, faut pas déconner, j'ai cherché. Et le vivre ensemble, c'est un concept qui exprime les liens pacifiques, de bonne entente, qu'entretiennent des personnes, des peuples ou des ethnies avec d'autres dans leur environnement de vie ou leur territoire. Dans la trend, donc, puisqu'on parle de solidarité, d'amour, de tolérance. Parce qu'attendez, il n'y a qu'à voir dans le métro le matin, le vivre ensemble, on le ressent vachement. C'est pas vrai ? Oui, moi, je le vois sur le visage des gens... Je vois l'amour, je vois l'envie d'aller vers l'autre, d'aider son prochain. Comme la bienveillance de la ligne 13 ne nous suffisait plus, on a décidé de créer des lieux spécialement pour se retrouver et échanger. On veut rencontrer des gens d'horizons différents, se rendre utile, aider, parce que c'est quand même l'objectif du bobo, ça. De rencontrer l'authenticité inconnue, étrangère, et de faire comme s'il sortait de sa zone de confort.
Et le bobo fait pareil, il ne veut rencontrer que des pauvres authentiques. Je le sais, je suis bobo. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi cette envie pour moi de rencontrer du pauvre authentique? Ben c'est, comme vous l'avez expliqué, c'est que comme j'ai quand même pas mal d'argent et que je vote à gauche, forcément, à un moment donné, j'ai un problème de conscience vis-à-vis de la société. Il faut voilà, que je prouve, que je témoigne de ma capacité à entrer en contact, à me mêler aux pauvres. Donc, parce que si jamais tu le fais pas, après c'est vrai que les gens vont dire « Oh là là, toi t'es la gauche caviar » et ça c'est la chouma quand t'es bobo.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans un tiers-lieu ? Plein de trucs. Ça peut mêler travail, musique, médias, restauration, écologie, etc., etc. On y retrouve des artistes, des familles, des couples, des gens seuls et tout ce public. Il est quoi honnêtement ? On l'a dit, il est bourgeois bohème. Et qui est bobo, là, autour de la table ? À vue d'œil, je dirais tout le monde, et moi y compris. Il faut assumer son côté trendy, mais son côté concerné, quand même. La définition du bobo, on la connaît tous plus ou moins, c'est la meuf ou le mec un peu relou qui se balade en vélo et qui mange des graines en nous disant que tout ce que les autres mangent, c'est bourré d'OGM. Et d'ailleurs, le youtubeur Jaika nous dresse un joli tableau des bobos dans une parodie de la chanson Réseau de Niska. Pas de gluten dans mon assiette, de fibres de lin et faites mon assiette. Je cultive mes légumes sur mon balcon, que dégradation, j'en laisse pas une miette. Oh, j'ai fini ma canette, tous les jours je trie, poubelle jaune ouverte. Quand je te parle, je me contredis, je suis écolo, mais chez moi j'ai la clim. Son pote Marco, je fais repérage de courge dans les chapiots. J'ai vu du kino. Ouais, j'accourcis les mots et je prends pas le métro. Le bobo est plutôt aisé, mais le bobo est concerné. Le bobo est solidaire. Mais il faut quand même se l'avouer, le bobo est assez communautaire, malgré ce qu'il s'efforce tant bien que mal de faire croire. Sous couvert de rencontres insolites, le bobo retrouve ses semblables dans des tiers-lieux. Alors n'ayez pas peur d'une invasion bobo, d'une gentrification sans limite, parce que le bobo, finalement, il est plutôt frileux et il préfère discuter d'écologie, de vélo et de graines avec des gens comme lui, des gens écolos qui font du vélo et qui mangent des graines.
Charlotte, elle te regarde stoïque. Une réaction ?
Eh bien, une réaction, oui, c'est vrai qu'il y a... Il y a quelque chose à dire là-dessus, c'est que ces lieux sont ouverts à tous, ils ont été faits pour ça, et qu'en même temps, on se rend compte aussi que la population est assez similaire, qu'il n'y a pas une diversité si dingue que ça, alors que pourtant, ils sont ouverts à tous.
Oui, alors moi, je voudrais rajouter, justement, sur ce côté bobo, bon, oui, on est tous bobos, enfin, Paris, plus ou moins, en tout cas. Ce qui est intéressant ici, en tout cas, je ne parle que de Grande Contrôle, c'est que la population que l'on accueille de manière véridique, elle est hyper diversifiée. Ça reste des gens urbains, plus ou moins. Alors, de temps en temps, on a des touristes, etc. Mais on accueille des gens qui ont de 20 ans à 60 ans. De manière assez... c'est évident. Enfin, il faut suffit de passer une journée ici, vous regardez. On est loin de la caricature du trentenaire qui vient boire des bières. Hein. C'est beaucoup plus large que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des jours et en fonction des moments de la journée, on attire aussi des populations différentes. Donc bien évidemment, le week-end, on va avoir plutôt des familles pendant la journée et le soir, des gens qui vont sortir, faire la fête, etc. Et la semaine, on va avoir encore d'autres publics. Et puis en fonction de la programmation aussi que l'on a, on a des publics qui vont pouvoir aussi mixer, se renouveler, qui vont venir voir des thématiques bien spécifiques sur d'autres thématiques. Là où je vous rejoins, c'est que faire venir des gens, exclus ou dans des situations sociales un peu difficiles, c'est pas facile en fait. On a essayé, on essaye, on travaille avec des associations, de temps en temps on organise des choses bien spécifiques pour des populations de sans-abri ou pour des populations qui sont en difficulté. Mais par exemple, pour elles, venir dans des lieux comme ça, c'est compliqué parce que en fait, c'est pas leur univers. Donc en fait, sous couvert de bonnes intentions, il faut parfois aussi se rendre compte de ce qui est réalisable ou pas. Et on n'a pas, voilà, on travaille, on tâtonne, on essaye des choses. Et évidemment, on n'est pas en train de dire que on va sauver le monde, mais on essaye.
Voilà, vrai que c'est
tout un enjeu.
Comment
mixer les populations dans une ville alors que c'est pas évident.
Et justement, en plus avec le Grand Paris, le fait que maintenant on va pouvoir faire une demi-heure pour aller d'une banlieue à une autre, il va y avoir d'autres espaces. Je pense qu'ils vont devoir en fait, que ça va être un devoir même de les créer, puisque là aujourd'hui, moi qui vais très fréquemment à Grand Contrôle, j'y vais pour aller boire des coups, etc. Mais je suis pas sûre que quelqu'un qui habite dans le 78 en fait connaisse ce lieu-là, alors qu'il y a des espaces énormes sûrement à investir. Et donc quand on parle de la capitale de demain, et d'ailleurs c'est toi Charlotte qui parlais de Londres. Tu disais qu'à Londres, ces espaces-là, est-ce que c'est pas qu'une question française
Oui, c'est ça. C'est que à Londres, le problème c'est qu'il y a des rues que Paris ne connaît pas. Enfin, Regent Street et Oxford Street, c'est des rues très commerciales où ce serait impossible de créer des lieux comme Grand Contrôle, des tiers-lieux. Mais à Londres, ça existe. Mais dans certains quartiers, Camden Town, par exemple, on en avait parlé. Où là,
c'est un Français, d'ailleurs, qui est à l'origine de certains de ces lieux. J'ai évidemment pas révisé mes petites fiches, donc je suis incapable de donner son nom. Excusez-moi, parce que en plus on se connaît. Ils ont fait quelque chose de super à Londres, dans des containers où justement ils essaient de s'implanter vraiment en local, en jouant aussi un rôle de tremplin avec des populations autour pour leur permettre de retrouver une activité, etc. C'est très intéressant ce qui se passe là-bas. Et oui, il faut s'adapter évidemment au contexte. C'est tout l'enjeu du tiers-lieu là aussi, hein, c'est de s'adapter à son environnement et de pas venir se poser de manière un peu artificielle et puis faire peu de cas des gens qui l'entourent. Donc ça, c'est important.
C'est souvent réussir, qui est faite, voilà. C'est vrai.
C'est réussir à tisser du lien avec l'entourage et l'environnement direct.
C'est là justement que c'est intéressant, parce que quand on parle là, on essaie de comprendre cette définition de tiers-lieu. Ce que tu expliques, Kenza, c'est un peu... on va aller dans ce tiers-lieu pour aller boire un verre, etc. Mais il y a une sorte aussi de représentation pour une certaine partie des personnes qui vont... Voilà, on va mettre sur Instagram, j'étais à Grand Contrôle. Bah oui, c'est cool d'être à Grand Contrôle. Et à Grand Contrôle, j'ai fait ça, etc. Ou même d'autres tiers-lieux. Et in fine, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire l'expérience, en fait, comment est-ce qu'elle se prolonge? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et quand on parle de tiers-lieu, il n'y a pas une idéologie, mais il y a un concept... une solidarité, de l'écologie, etc. Et donc, est-ce que finalement, là, on essaie de s'interroger, on se demande, demain, qu'est-ce que ce sera les tiers-lieux? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, derrière, quelque chose de plus profond, qui est, c'est des espaces où, au-delà même de l'expérience, derrière ce concept, en fait, peut-être que plus tard, tout ce qui va être engagement associatif, en fait, c'est peut-être ces espaces-là qui sont clés pour les mettre en place.
Investir,
qui vont investir, et qu'à ce moment-là, ce sera... On n'ira pas pour rencontrer quelqu'un, mais on ira parce qu'on partage les mêmes choses au sein de ce lieu, au sein d'un tiers-lieu. Et d'ailleurs, ça nous fait une bonne transition, parce que maintenant, on va accueillir Anaïs.
Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire. Pour ces parias, la ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y a plus de titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, le Paris d'Audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière, faire le tour de la terre.
Bienvenue Anaïs.
Bonjour à tous.
Tu es nouvelle, toi aussi, dans ce podcast. Tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît?
Eh oui, je m'appelle Anaïs, je suis aussi en Master 1 de Lettres et Multimédia, comme Kenza et Camille. Et je peux dire que
Charlotte.
Et je suis féministe, écolo, oui, je mange des graines et j'aime le quinoa.
Donc tu étais bien dans la chronique de tout à l'heure.
Voilà, et j'adore le journalisme et rencontrer des gens, donc ça m'a vraiment passionnée de travailler sur ce sujet-là. Et je vais vous faire découvrir donc un lieu, la Cité Fertile, créé par Signeoco. Donc c'est une agence d'ingénierie culturelle et créateur de tiers-lieux. Et ils ont décidé de construire donc un campus pour former des gens au tiers-lieux.
Donc, est-ce que justement, là, on parlait à l'instant du fait que ces tiers-lieux pouvaient être parfois, pas superficiels, mais pouvaient être, enfin, la dénomination même pouvait être critiquée dans l'idée. Et en fin de compte, il y a une idéologie. Et toi, justement, ce qui est super, c'est que tu es allée donc, dans un lieu, comme tu viens de le dire, qui s'appelle la Cité Fertile, où il y a vraiment la notion d'écologie derrière. Et même au-delà de ça, en fait, il y a une formation de tiers-lieux. Donc, on va écouter ton reportage.
Donc, je m'appelle Juliette, je suis en charge donc, de l'école des tiers-lieux, qui est l'organisme de formation de Signoco. Signoco, qui est une agence de création de tiers-lieux culturels sur Paris et l'Île-de-France. On a plusieurs lieux, que sont donc, la recyclerie Porte de Clignancourt, le pavillon des canaux le long du canal de l'Ourcq, la machine du Moulin Rouge, le bar à bulles et dernièrement la Cité Fertile qu'on vient d'ouvrir à Pantin, qui est donc un lieu d'un hectare, une ancienne gare de marchandises de la SNCF, qui fait partie des projets d'urbanisme transitoire de la SNCF. Donc on est en occupation temporaire pour 3 ans, suite à un appel à projet de la SNCF. Et donc dans ce vaste écosystème où on retrouve un incubateur de projets du 93 autour de l'économie sociale et solidaire portée par Inco, une brasserie de Pan Am Brewing Company qui est donc un brasseur local. On retrouve aussi donc le campus des tiers-lieux qui est notre projet d'incubateur de projet de tiers-lieux donc qui va se lancer en 2019 et qui va faire suite à l'école des tiers-lieux, l'organisme de formation. On a pour l'instant une formation courte de 40 heures sur une semaine, c'est plutôt intense, qui permet en fait à une typologie variée de personnes de s'initier à notre modèle de tiers-lieux, notre modèle donc chez Signoco. On va avoir surtout majoritairement des porteurs de projets aussi bien parisiens, franciliens, grands parisiens à peu près à 50%, que du reste de la France, voire aussi de l'étranger. L'idée, c'est vraiment donc sur une semaine de comprendre l'ensemble du modèle, aussi bien donc son modèle économique que justement comment on organise une programmation culturelle, comment on tisse des relations avec le territoire dans lequel on s'inscrit, comment on communique dessus, comment on gère ce lieu au quotidien. Nous on a un socle économique qui est le café cantine, ce qu'on appelle le CHR, café, hôtellerie, restaurant. Et c'est ce modèle économique, ce socle économique qui va servir à financer derrière des activités non lucratives et une programmation culturelle. On est sous le préau en travaux. Donc, ce qu'on appelle le préau, c'est l'ancienne halle donc ferroviaire, de nouveau de quai de chargement des marchandises. C'est une très belle halle avec la charpente en bois. Et ici, en fait, dans le fond, on a installé un bac à sable. Et l'été, on a une bibliothèque aussi pour les enfants. On a pas mal de jeux. Donc voilà, c'est squatté par tous les enfants qui viennent jouer là tranquillement. Et à côté, on a plein de tables d'écoliers avec des chaises. Ça nous sert en fait d'extension de terrasse pour les parents. Et tu parlais d'une place, et c'est exactement l'idée. En tout cas, ça m'a un peu de repenser. Enfin, que ce soit vraiment la place du village. Il faut savoir que la Cité Fertile, ça a été pensé... C'est un projet qu'on a écrit il y a 3 ans, je pense, maintenant, et qui est vraiment un peu pensé comme ce village, entre guillemets, puisque donc on a cette cour, on a cet endroit qui, pour nous, en effet, le préau et la place publique. L'école des tiers-lieux, en fait, le nom de l'école vient de cette idée de village et que ce soit l'école du village, en fait. On va aller les voir plus loin, mais on a les écuries, les anciennes écuries qu'on veut transformer en espace pour les artisans, justement, pour que ce soit des petits commerçants, artisans qui puissent s'installer là. Voilà, donc c'est un peu cette idée de repenser un village d'une certaine manière. Donc déjà, on trouve une multitude justement d'activités et on va trouver aussi une multitude d'acteurs qui vont se fédérer autour d'un projet commun. Et c'est ça qui va faire aussi la particularité des tiers-lieux. On est un peu là dans une phase plus de sommeil du projet puisque l'hiver, on a été fermé, donc c'était plus un espace pour les travailleurs justement. On avait des structures différentes qui venaient travailler ici. Mais on réouvre dès avril justement au public avec toute cette programmation culturelle, etc., qui va justement amener les gens à se rencontrer, aussi bien les Pantinois que les Parisiens. Et aussi bien justement des gens qui vont venir un peu par curiosité sans trop savoir ce qu'ils viennent faire ici, et d'autres qui viennent spécialement pour un événement ou pour un rendez-vous avec une structure sur site. Et donc c'est un tiers-lieu parce qu'en fait on retrouve vraiment toute cette effervescence de différents acteurs qui vont travailler autour de ce projet-là. Et donc ce projet et cette finalité qui est un peu ambitieuse de se dire il faut qu'on réfléchisse ensemble à la ville de demain. Les enjeux de la ville de demain, donc poser donc toute la question du Grand Paris, en effet, des JO aussi, des Jeux Olympiques qui vont bientôt... qui sont déjà en route, en fait, même si c'est qu'en 2024, on a déjà les lancements des chantiers, on a déjà énormément de réflexions avec les acteurs parisiens à des niveaux très différents, que ce soit des petits acteurs de l'économie sociale et solidaire ou justement des très gros groupes qui vont travailler autour de ces questions-là. Nous, ici à Pantin, on est aussi au cœur de ce qu'on appelle l'arc de l'innovation, qui est un dispositif qui a été monté par plusieurs collectivités territoriale justement pour dynamiser tout ce côté est autour de Paris. Donc là, il y a tous ces enjeux très territoriaux dans une certaine mesure, puisqu'on est quand même à une échelle assez large. Et ensuite, c'est aussi poser la question donc des enjeux de la ville de demain de manière plus générale, en posant la question des nouvelles mobilités, des mobilités douces, de l'alimentation locale qui va produire un minimum de déchets et de pollution, donc l'agriculture urbaine, ça va être aussi poser des questions justement de la réduction des déchets, de l'upcycling, enfin voilà.
Donc là on est dehors et on tombe sur un bassin.
Ouais, on tombe sur un bassin de récupération d'eau qu'on a créé, puisqu'en fait, donc dans la cour, il y a pas mal d'arbres, il y a des plantes aromatiques, et donc il y a ces bassins. Il faut savoir qu'avant, dans cette grande cour pavée, qui fait plus de 2000 m², bah, y avait rien en fait, hormis ces pavés, et qu'on a amené justement plus de 300 arbres et plantes différentes. On travaille avec un paysagiste depuis très longtemps, qui est très sensible à ces questions d'écologie. Donc on a des bassins de récupération d'eau de pluie pour les plantes justement, et on a aussi des poissons dedans, qui sont des carpes koi, si elles veulent bien montrer un petit peu, voilà. Et du coup, on a récupéré le bois au maximum et on l'a utilisé pour les bassins et pour tout le mobilier aussi de la cour. Donc les bancs, les tables, etc. Et on va en utiliser une partie, ce qui reste, pour faire la serre justement qui sera contre cette grande halle en métal. Et donc pour terminer la visite de la cour, qui est quand même l'espace de vie, de rencontre et de croisement justement de la cité fertile, il y a des terrains de pétanque et de molki. Molku, comme ça se prononce en fait, parce qu'on le prononce pas très bien. Et il y a un terrain de volley. Dès qu'on est ouvert, en fait, on a des gens qui jouent au volley, et c'est assez chouette puisque il y a des équipes qui se créent de manière complètement spontanée. Voilà, c'est un bel espace de rencontre.
Alors déjà, Anaïs, toi, ça t'a fait quoi ce tiers-lieu? Parce que toi, tu es allée en privé, parce que ce n'est pas encore ouvert. Mm. Donc, comment c'était? Raconte-nous un peu.
Déjà, j'étais vachement surprise. En fait, c'est en tournant la tête à gauche, en sortant du RER E, en arrivant à Pantin. Et il y a marqué, en gros, la cité fertile. Et donc, c'est un hangar un peu des halles, en fait, d'anciennes gares de marchandises, en fait, qui sont complètement réorganisées. Et donc, tu arrives avec des bancs de pique-nique, avec du bois recyclé, tu as des grandes halles. Et ils sont vraiment tournés sur le local, parce qu'il y a même la brasserie de bière qui est produite localement. Donc, c'est hyper sympa. Tu as des citernes dans des halles. Et comme on le voit dans le reportage, c'est vraiment tourné vers une place du village. Et vraiment fédérer les gens, que ce soit les Pantinois, mais aussi les Parisiens, et que tous ces gens se rencontrent au sein de ce lieu. Et c'était hyper sympa, et je trouve que c'est un tiers-lieu hyper complet et atypique, parce qu'il y a cette école des tiers-lieux.
Alors oui, justement, cette école des tiers-lieux, moi je trouve ça intéressant, parce que tout à l'heure on parlait, là on était en train de poser une définition. Donc si on pose une définition, ouais, ça veut dire que ça commence à s'institutionnaliser. Et là maintenant, on se crée donc une école des tiers-lieux, et quand on parle de la capitale de demain, ça veut dire, c'est intéressant, parce qu'en fait il y a l'idée de créer de l'emploi derrière.
Ouais, en fait il y a plein d'enjeux. Déjà parce que le tiers-lieu, c'est un territoire d'expérimentation. Donc le défi pour moi de la ville de demain, donc, comme elle en parle dans le reportage, c'est aussi le Grand Paris. Donc faire venir toute cette population. Mmh. On est en train de réinvestir le territoire. Et ce qui est super intéressant, c'est réinvestir le territoire localement pour créer de l'emploi, parce qu'il y a 80 personnes qui ont suivi la formation. T'as même des gens au Niger, à Niamey, qui ont fondé ce qu'on appelle l'Oasis, c'est un espace de coworking, axé entrepreneuriat des femmes et développement durable. T'as la maison à Montreux, à Montreuil. C'est un café-auberge, lieu de vie pour promouvoir des artistes et talents du 93, mais aussi de Paris. T'as en Haute-Savoie et aussi à Nantes. Donc t'as vraiment beaucoup de tiers-lieux qui ont été créés à partir de cette école. Ramener des gens pour qu'ils se rencontrent et qu'ils ne soient pas là juste parce qu'il y a un concept, mais vraiment lieu de vie, quoi.
Tu voulais dire quelque chose, Charlotte ?
En parlant d'emploi, oui, j'ai été surprise parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui était facilitateur de tiers-lieux.
Toi, tu rencontres ça pile le mois où on fait un podcast là-dessus ?
La veille même.
Ouais, ok.
Et donc, c'est quoi le défi de créer de l'emploi justement dans ces tiers-lieux.
Qu'est-ce que c'est être
employé
de tiers-lieux
et comme ils font des formations dans la cité fertile, c'est quoi ce défi-là ?
Dans le reportage, comme elle l'explique, donc c'est fonder c'est des gens qui viennent avec des concepts justement et réinvestir un territoire localement. Ils habitent là, ils veulent créer un truc pour fédérer des gens. Donc il y a Juliette qui est responsable de sa formation qui va apprendre à ces personnes à comment déjà économiquement comment survivre et fonder leur lieu. C'est ce qui est hyper important. Mettre en place le contexte et faire cette programmation culturelle. Donc Mathilde, tu es une experte dessus. Et comment on va amener les gens. En fait, comme je disais, c'est un territoire d'expérimentation. Donc on va créer quelque chose et on va voir.
C'est en avril,
avec
c'est
la cité
ça,
fertile. En fait, j'ai déjà vu des gens qui étaient en rendez-vous là pendant que j'étais. Et même si c'est fermé.
En avril, c'est ça ?
Mais le lieu en lui-même, avec une programmation culturelle, ça ouvre en avril. Voilà. Ouais. Donc très prochainement.
Donc les tiers-lieux créent de l'emploi aussi.
Ouais.
Voilà.
On est en plein dans notre sujet.
Et des métiers de demain, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte socio-économique où ça peut être compliqué d'avoir l'emploi. Et là, comme c'est hyper novateur, qu'on peut faire plein de trucs, voilà.
Et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est à Pantin.
Ouais. Donc au-delà du périph.
C'est ça. Et donc du coup, c'est... Pour toi, là, qui allait à la cité fertile, c'est quoi la différence en fait ? Parce que là, on est à Paris.
Ouais.
Et du coup, c'est une capitale. Il y a le Grand Paris dans les 10 prochaines années qui va se mettre en place. Est-ce que le tiers-lieu a vraiment une différence dans des espaces comme ça ?
Ouais. Alors là, il y a plusieurs enjeux parce que déjà, moi personnellement, quand je suis arrivée, c'était très bruyant. Donc on arrive avec le RER, on arrive à côté des routes. Il y a un gros pont à traverser avec beaucoup de circulation. Et il est en fait ancré dans la politique transitoire de la SNCF. Donc, ils veulent réaménager des lieux un peu comme à Grand Contrôle qui était occupé par la SNCF avant. Et aussi dans le futur écoquartier de Pantin. Donc, en fait, ils vont laisser la place, le futur écoquartier de Pantin, la cité fertile est compris dans ce territoire où ils vont installer ça. Beaucoup d'activités.
Et on pourra découvrir tout ça
en avril. Venez tous. Et je pense que l'équipe, on va y aller, hein, si ça vous tente, tous ensemble.
On va faire le tour de tous les tiers-lieux.
Voilà, un petit road trip.
Thank you.
Charlotte, toi, tu as découvert un lieu durant ce podcast. Tu as passé plusieurs heures. On a reçu des SMS de ta part en disant « Je ne quitterai plus ce lieu. C'est magnifique. Je vous envoie des photos. » Et perso, moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Alors, vas-y, explique-nous. Dis-nous tout.
Mais alors, j'ai redécouvert la rue de Rivoli. C'est-à-dire que c'est une rue par laquelle je passe tous les jours pour aller à la fac.
Ouais.
Et je passais devant le 59 Rivoli, mais je ne me suis jamais arrêtée. Je n'ai jamais trop fait attention. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Je marche avec mes écouteurs et je fais attention à rien. Et là, vous passez la porte et il y a un monde d'art, de partage et de joie de vivre qui s'offre à vous. J'ai été carrément surprise de voir le travail qui a été fait pour redonner de la vie à cet immeuble qui attire une jeunesse qui veut se réapproprier complètement la ville.
On va écouter.
Donc, c'était
on
incroyable.
Va écouter ça.
Donc, je suis avec Fredoc au 59 Rivoli.
Alors moi je suis un artiste du 59 depuis 2011. Il y a 30 artistes au total, il y a 15 noyaux durs et 15 électrons libres qui effectivement restent entre 3 et 6 mois. Et c'est pour ça que je dis que je suis un privilégié de faire partie des 15 qui font partie de ce lieu en permanence. Mais bon, on n'est pas là que pour peindre et travailler. On s'occupe aussi du lieu, on gère un peu le lieu, les nouveaux arrivants et pas mal d'autres choses.
Et du coup, qu'est-ce que ce lieu t'a apporté depuis ton arrivée?
Beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges avec le monde, des rencontres insolites. C'est un lieu de rêve.
Du coup, là, on est dans... C'est ton bureau, c'est ça? On est au 6e étage?
Bureau, atelier plutôt.
Que je t'ai complètement coupé dans ton travail d'ailleurs.
Ah non, il n'y a pas de souci. Non, ça va, on peut couper et reprendre quand on veut avec ce genre de travail. Il n'y a pas trop de contraintes.
Comment le 59 Rivoli, qui incite à réaliser des projets collectifs, a influencé ton travail d'artiste?
Mon travail d'artiste, influencé, pas vraiment. Disons que moi je suis plutôt venu avec mes idées. Et je continue à travailler avec mes idées sans pour autant m'éloigner du collectif, quoi. Ça n'empêche pas de participer à des projets effectivement communs.
Tu peux nous présenter un projet que tu as fait
Projet de façade. Après, ça peut consister à faire un lettrage par rapport à une annonce, une affiche. Enfin, voilà, on a tous la main à la pâte, je veux dire. On est tous présents en général. Le ménage, enfin, des tas de choses propres au quotidien du 59.
Et selon toi, quelle devrait être la place des lieux alternatifs artistiques dans le Paris, dans la capitale de demain?
Plus présente, la place plus quotidienne. Disons que c'est trop... Il n'y en a pas assez, il n'y a quasiment aucune visibilité. On est vraiment les seuls à être ouverts au public à Paris. Et on sent que c'est quelque chose qui plaît vraiment au public. Il y a un échange qui est permanent et avec le monde entier. Ce n'est pas propre aux Parisiens.
Je suis au 5e étage et j'ai l'impression que c'est l'endroit de la musique. Je suis maintenant avec Lucie et Andrea. Je vous laisse vous présenter.
Alors moi, je travaille à l'administration et à la gestion du 59 Rivoli depuis un an maintenant.
Moi, je suis Andrea Pistillo et je suis en service civique au 59 Rivoli et je suis en charge de l'administration avec Lucie.
Avec moi.
Depuis combien de temps?
Depuis un mois. C'est très récent.
En quoi le 59 Rivoli est-il un lieu alternatif?
Il est né il y a une vingtaine d'années, presque 20 ans en fait maintenant, de manière complètement illégale. C'est trois artistes qui ouvraient déjà des squats avant ça, qui l'ont ouvert, en passant par derrière et en cassant une fenêtre. Donc pendant les trois premières années de sa vie, il a été un squat. Et ils l'ont tout de suite ouvert au public, en comprenant vite que ça allait être une force pour eux de ne pas se cacher et de montrer tout de suite ce qu'ils faisaient et de tout de suite aller chercher les pouvoirs publics, chercher des journalistes, chercher une visibilité pour changer aussi un peu l'idée qu'on pouvait se faire du squatteur ou du squat d'artiste. Et ça a été une de leurs forces, puisque trois années après, ils signaient avec la mairie de Paris qui a racheté le bâtiment.
Et vous pouvez nous expliquer un peu le concept du coup maintenant du 59 Rivoli?
C'est des ateliers ouverts, c'est un espace d'exposition ouvert, c'est des concerts tous les week-ends, c'est tout le 59 en libre accès et gratuit, surtout gratuit. Et c'est pouvoir voir les artistes en train de créer, c'est pouvoir passer un peu de l'autre côté du miroir. Toutes les villes ont besoin de lieux où on peut créer et inventer autrement, sans pression financière, sans une pression de rendu ou de rendement. C'est un endroit où les gens, les artistes se rencontrent beaucoup. Sur une trentaine d'artistes, on a 25 nationalités différentes.
Le libre accès déjà permet à tout le monde de pouvoir se confronter à l'art, à différence, je pense, des musées et des institutions. Nous n'avons aucune limite en termes de âge, classe sociale ou
nationalité.
Ou...
Pour la gratuité, on a vu que la gratuité dans certains musées, ça ne poussait pas plus les jeunes à venir. Et pourtant, au 59, la majeure partie du public qu'on a, c'est des 15-20 ans. Les jeunes viennent rester assis dans les escaliers. C'est très informel. C'est pas un musée, c'est pas un centre d'art, c'est pas un wet cube.
Chacun se sent la légitimité en fait de rentrer.
C'est ça, c'est un peu comme une maison. Le 59 Rivoli fait la passerelle entre la rue de Rivoli et la rue de l'autre côté du pâté de maison, la rue des Deux Boules, qui est peuplée à l'année d'une dizaine de SDF qu'on ne voit pas. Et nous, l'accès des artistes se fait par cette rue. C'est ce croisement entre art et implication sociale où on va pouvoir enfin réfléchir l'art différemment dans nos villes.
C'est un peu l'art qui rassemble les deux visages de Paris qui ne se voient pas.
C'est la grande démocratisation de la culture qu'a tant voulu Malraux. Peut-être que le 59 a fini par y arriver finalement.
Le 59 Rivoli, ça fait bientôt 20 ans. Et en novembre, il va y avoir un événement. Vous pouvez nous en dire plus ?
Nous avons prévu une exposition, des tables rondes, des projections et des concerts.
Comment, en conservant l'histoire de ces lieux, on les fait entrer dans la grande histoire et on n'oublie pas qu'ils ont été présents et c'est aussi des exemples pour le futur qu'il ne faut pas qu'on perde.
Ce lieu est décoré du sol au plafond. Il y a un escalier en colimaçon qui monte jusqu'au 6e étage. C'est magnifique, il y a des banderoles partout, des dessins. C'est très coloré et apparemment ça plaît beaucoup aux jeunes.
C'est vrai qu'on avait du temps entre deux cours, du coup c'est sympa, on peut venir, on peut passer, c'est gratuit.
Vous êtes en quelle classe ?
En première année de double licence.
On a tout de suite une ambiance spéciale.
On change un peu de Paris quoi.
Oui. Et on peut...
En quoi vous changez de Paris ?
C'est plus calme, c'est plus respirable. Même parce qu'ils sont dans la rue de Rivoli quand même. On arrive, on est un peu stressé, on est entouré de plein de monde, de klaxons et tout. Au final, on rentre, tout le monde est sympa, tout le monde sourit. On se retrouve un peu dans un autre monde.
Qu'est-ce qu'il y a ici et que vous ne retrouvez pas ailleurs ?
C'est pas comme un musée où on va être très scolaire, les œuvres sont sous boîte... On ne peut pas y toucher, bon c'est normal, hein, faut bien préserver les œuvres, mais là bon, c'est vraiment du vivant quoi. Ouais voilà, c'est du vivant.
Là je suis en plein milieu d'un atelier avec une classe de collège. C'est l'écrivaine Sylvie Delcoteau qui anime cet atelier.
Écoutez, ça serait bien. On va commencer par un échauffement enfin. 5 mots qui vous viennent à l'esprit, sans filtre, sans dire oh non, c'est pas bien, non, machin truc. Juste les 5 mots qui vous viennent à l'esprit, vous les mettez à la gestion.
Vous savez que c'est des ados. Je suis Stéphanie de Florian, professeure d'art plastique au collège d'Andrézy. Et j'ai amené deux classes de 3e.
Pourquoi vous êtes venue au 59 Rivoli avec votre classe ?
J'adore ce lieu. Parce qu'on voit les artistes en création. Ce qui est aussi important dans ma sortie, c'est l'idée d'exposer autrement, pas juste des tableaux avec le petit cartel à côté dans une salle d'exposition, mais de voir l'œuvre autrement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le 59 rue de Rivoli.
Alors, je suis en présence de deux élèves qui je les laisse se présenter.
Bonjour, moi c'est Hugo Martin. J'ai 14 ans et je suis en classe de 3e 4 au collège Saint-Exupéry à Andrézy.
Alors bonjour, moi c'est Justin Burgin. J'ai aussi 14 ans et je suis comme Hugo au collège Saint-Exupéry.
Moi c'est la première fois que je vois un lieu comme ça. Parce qu'il y a des tableaux qui sont originaux.
On a l'air d'être plus libre.
Dans un musée, on a un sens de visite, on doit aller à droite, à gauche, alors que là on peut vraiment se balader, voir ce qu'on veut.
Donc dans les différents étages, il y a différents ateliers d'artistes. Et là, au rez-de-chaussée, à gauche, on se retrouve dans une sorte de galerie. Il y a plein de tableaux qui sont accrochés au mur. que de l'art contemporain. Tout le monde prend des photos, tout le monde se regarde avec des sourires, tout le monde se parle, ceux qui ne se connaissent pas, ceux qui se connaissent. Les artistes sont très avenants. Ils sont en train de... L'un qui est en train de dessiner pendant qu'il parle à un visiteur.
Moi, je viens d'Italie, de Florence. J'ai vu beaucoup des artistes qui sont nouveaux et qui m'a plu beaucoup. C'est magnifique, c'est le but des arts.
Charlotte, merci. Moi, j'ai déjà une première question, c'est Kenza, toi, tu étais déjà allée ou pas au 59 Rivoli ?
Alors moi, je suis jamais allée au 59 Rivoli. Je suis passée plein de fois devant et j'en ai parfois parlé avec des amis. On se disait « Ah, mais c'est quoi ? La devanture est quand même assez impressionnante. » Et on m'a dit « Ah, mais c'est un ancien squat qui a été réinvesti, c'est devenu un lieu artistique, etc. » Et j'avais jamais passé la porte. Et c'est vrai qu'après le reportage, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de poser le casque et de foncer rue de Rivoli, du coup, et d'aller voir ouais, comment ça s'organise, comment ça se passe, c'est quoi, c'est sur 6 étages, c'est immense.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu m'as dit que t'allais au 59 Rivoli, je t'ai dit « Ah, bah, arrête-toi sur la fresque où il y a plein de bébés. » Parce que la première fois que j'y étais allée, il y avait... Donc il faut savoir que c'est quand même un escalier immense. Et en fait, t'avais des bébés sur 2 étages, démentiels. Je me suis dit « Je veux rapporter ça chez moi. » Et en fait, tu rencontres les artistes et là, tu te rends compte en fait que l'œuvre, elle appartient au lieu parce que tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il y a un artiste qui a fait ça, que je pourrais ramener quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que tu rentres en fait dans la dimension du musée et tu rentres dans la dimension de ces choses-là que je vois, ces choses-là que je vis, je peux les prendre en photo, mais je pourrais pas me les réapproprier pour moi. En fait, l'espace est complètement à la ville. Quand tu arrives au 59 Rivoli.
Parce que déjà, la fresque des bébés, moi, je ne l'ai pas vue.
Toi, tu ne l'as pas vue, donc depuis le temps, elle a dû être changée.
Et c'est ça qui peut être décevant parfois pour ceux qui sont très attachés, comme toi, à cette fresque. mais sinon, c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent les lieux et ils font vivre, en fait, les murs. Ils font vivre jusqu'aux murs.
C'est que ça évolue.
Ça évolue au gré des artistes qui sont là. Chaque artiste va déposer un peu sa personnalité sur le mur et sur ce lieu. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, par exemple, pendant longtemps, je me suis dit que l'art, c'était réservé à une élite qui n'était pas moi. Et eux, ils montrent complètement le contraire. C'est-à-dire que tout le monde se sent légitime de rentrer.
C'est ça, c'est que tu peux poser des questions, là, comme tu as fait dans ton reportage aux artistes, leur demander, en fait, ça les dérange pas parce qu'ils t'expliquent que ça fait aussi partie de leur art, en fait, d'avoir
de la rencontre en même temps. Et puis, ils se nourrissent aussi de ça, de cette interaction. Et je pense que c'est bien que autant pour les artistes qui se nourrissent de la population et de ceux qui aiment leur art, ceux qui ne connaissent pas bien l'art, ceux qui se disent que c'est un peu trop compliqué, qu'on comprend pas, et ben là, ils vous expliquent. Et là, vous pouvez parler avec les artistes et non pas juste avec les œuvres.
Et alors, ce lieu, justement, parce que là, donc tu parlais du 59 Rivoli et c'est un peu différent des autres tiers-lieux dont on parlait, parce que là, c'est complètement axé que sur l'art, déjà. Et moi, quand j'entends ce reportage, je me dis, mais alors, c'est quoi finalement la différence entre l'expérience quand tu vas aller à un musée, parce que les musées aussi, en fait, maintenant, créent des expos, des conférences, enfin, ils essaient de ramener aussi un autre public. Alors, réellement, du coup, la différence entre un musée et un tiers-lieu artistique, elle se retrouve comment ?
Eh bien, la différence, déjà, c'est la liberté. C'est-à-dire que...
dans un musée,
dans un musée, quand on rentre, déjà, c'est un peu sacré comme une église. On a tendance à parler très bas. On a un sens de visite, le plus souvent. Alors que dans le tiers-lieu, mais alors vous pouvez vous perdre dans tous les étages. C'est un labyrinthe. Vous faites autant bruit que vous voulez. Quand j'y suis allée, il y avait une classe, deux classes même, deux troisièmes qui faisaient un boucan pas possible. Okay. Et ça gênait personne, en fait.
Oui, alors que dans les musées, c'est chut.
Alors que voilà, dans les musées, c'est assez, c'est très sacralisé. Et les œuvres, parce que les œuvres sont considérées comme des choses un peu lointaines, comme ça, alors que là, on peut toucher... Voilà, préserver.
Alors que c'est vrai que, du coup, dans le 59 Rivoli, il y a beaucoup d'artistes contemporains aussi, forcément, et du coup, ce qu'on entend dans le reportage, c'est que les élèves viennent poser des questions aux artistes, leur demander leur processus, voilà, leur parler de leur processus de création, etc., et ça avait l'air, ça a l'air intéressant d'aller voir aussi comment ça se passe, un lieu d'art qui est différent d'un lieu sacralisé où on a tous l'habitude d'aller, où on nous emmène quand on est petit et tout.
C'est une autre approche, et je trouve que c'est une bonne approche pour
pour que les jeunes surtout s'intéressent à l'art contemporain, parce que quand on dit art contemporain,
ah bah oui, c'est très élitiste.
Voilà, on pense à quelque chose de très compliqué.
Voilà. Dans le marais.
Alors que là, les petits des troisièmes étaient très contents.
Et bah super. Bah merci beaucoup en tout cas, Charlotte.
Mais de rien.
Le temps passe et Paname reste le même.
Paname.
Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime.
Paname.
Le temps passe et Paname reste le même.
Paname.
Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime.
Paname.
Le temps passe et Paname reste le même.
Paname.
Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime.
Paname.
Le temps passe et Paname reste le même.
Paname.
Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime.
Paname. Ne donne pas de bouffe aux pigeons, c'est pas des boniments.
Paname.
Ces rats volants dont les fientes attaquent les monuments.
Paname.
Et sa pollution visible des hauteurs de banlieue.
Paname.
Tant mieux, je respire bien.
Des étudiants qui invitent des étudiants sur 9 mètres carrés, c'est un peu l'entre-soi dans ce podcast. Bienvenue Thomas Millet.
Merci de me recevoir, salut. Bon.
Alors nous, je connais Thomas plutôt d'habitude dans ma classe, dans mon école. Et là en fait si tu viens, c'est parce que tu as créé quelque chose en septembre. D'assez incroyable je trouve quand on a cet âge de se dire tiens je vais me lancer dans un festival. Tu vas nous le raconter tout de suite, alors qu'est-ce que c'est que le Nomos Festival? Comment on se dit à cet âge-là, bah moi en fait je vais créer un festival étudiant? Comment t'es venue cette idée?
Alors, déjà, Nomos, c'est un festival culturel, solidaire, étudiant. Le principe de base étant de soutenir une association d'entrepreneuriat social et solidaire, qui est Enactus.
Qui est une association du CELSA.
Exactement. Enfin, c'est une association internationale.
Voilà.
Et il y a une branche au CELSA, plus précisément. Et en fait, l'idée du festival est un peu apparue au cours de réflexion, quand on arrivait en L3, où on se disait un peu tous, qu'est-ce que je vais apporter à cette école? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux m'investir d'une manière ou d'une autre? Et puis, on a réfléchi à plusieurs. Et en fait, il y a un moment où l'idée du festival est apparue parce qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même considéré comme la meilleure école de communication de France. Et il n'y a pas de festival, pas véritablement. Le seul événement un peu hors les murs, c'est celui dans les murs qui sont plus des expositions, plus tournées vers l'art. Mais en fait, il n'y a pas un festival à proprement parler. Et donc... À partir de ce postulat, on a commencé à se dire, tiens, on va réunir une équipe. Et on a une équipe de potes qui a commencé à se monter. Et en plus, ce qui est assez marrant avec cette équipe, c'est qu'on n'était pas forcément tous musiciens, pas forcément tous tournés à fond vers la musique. Et on ne cherchait pas non plus à forcément se construire un profil musical, un profil festivalier, et ni forcément même d'organisation événementielle. Et donc, en fait, c'était un peu ce côté, on a un an, parce qu'en plus, le principe du CELSA, c'est de monter, c'est de participer aux associations et de les laisser pour l'année qui arrive. Et donc, de se dire, on a un an pour tout donner, pour monter quelque chose, et ça donnait ça.
Et alors, pourquoi avoir choisi le P7 pour faire un festival? Parce que tu aurais pu faire un festival, dans un bout de campagne, dans un endroit à Paris, au nouveau casino, ce genre de lieu. Pourquoi avoir choisi le P7? Comment c'est venu?
Alors en fait, on a beaucoup aimé le P7 parce que quand on a rencontré les dirigeants, en fait, on a eu tout de suite carte blanche par rapport à ce qu'on avait la possibilité de mettre en place. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé...
Une liberté.
Une vraie liberté qui était assez intéressante pour tout simplement nous exprimer. Et en plus, ça avait l'avantage d'être situé donc dans le 13e, juste en face de la BNF, un endroit que beaucoup d'étudiants salésiens ont un peu fréquenté auparavant. Et c'est un lieu qui nous a plu. En plus, parce que avec les grands tableaux lumineux qu'il y a devant, les grands écrans...
Mais c'est assez impressionnant quand on arrive...
Franchement, et en plus, le fait qu'on ait eu la possibilité de les investir totalement toute la journée, ça a été un vrai plus, et c'était génial de se dire que quand on sortait au métro BNF, on voyait à 500 mètres Nomos Festival écrit en grand qui illuminait la nuit. Donc,
C'était plutôt sympa ça. Mm. Kenza, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, est-ce que quand vous avez décidé de monter le festival, vous vous êtes dit on veut qu'il se déroule dans un lieu alternatif, ou est-ce que vous avez fait plusieurs démarches et après, quand vous êtes tombé sur le P7, vous vous êtes dit c'est là qu'on veut le faire, ou est-ce que c'était un parti pris de base de le faire dans un tiers-lieu?
Alors en fait, de base, on ne voulait pas un lieu qui avait une identité trop marquée. Donc c'est aussi sur ça que le P7 était très avantageux, c'est que comme c'était une salle récente, elle a ouvert en janvier ou février 2018, elle n'avait pas encore trop, par exemple, voilà, si on prend le nouveau casino, si on prend je sais pas, même d'autres salles de concert, le Paris Event Center, tout le monde a y allé au moins une fois et a donc déjà un peu une vision du lieu, une appréhension particulière de ce lieu. Et au moins le P7, en fait, c'était vraiment ça. On avait un champ libre, une carte blanche pour vraiment... voilà, on avait une page blanche devant nous et on pouvait dessiner ce qu'on voulait dessus et les personnes allaient se souvenir de ça.
D'accord.
Et alors comment précisément le festival, si je me souviens bien, ça a duré sur une journée?
Exactement.
Et alors en termes d'organisation, c'était quoi? Parce que du coup, vu que ça mêlait solidarité, musique, c'était
alors,
quoi en fait?
Alors en termes d'organisation, c'était déjà intense. Et surtout, la journée s'est articulée entre une partie qui était plus des conférences, des ateliers,
ouais.
Où justement on voulait un peu sensibiliser à l'entrepreneuriat social et solidaire. Et comme le projet qu'on soutenait majoritairement était Bizibus, donc un projet de ramassage scolaire au Rwanda,
ouais.
Ainsi que de formation de chômeurs au permis BD à la mécanique, comme ça j'oublie rien.
Et, du coup, à Enactus.
Exactement. Et donc on a aussi eu envie de sensibiliser un peu aux problématiques de l'éducation au Rwanda, et on a notamment pu le faire à travers la diffusion d'un reportage Arte. Donc voilà, en fait, toute cette journée, c'était plus un moment de rencontre, et c'était vraiment le côté lieu de rencontre que peut être le tiers-lieu. Et après, voilà, le soir, on s'est dit que c'est aussi intéressant d'avoir des artistes qui vont justement faire venir du monde, une autre population également, parce que ceux qui sont intéressés par les conférences ne sont pas forcément par la musique, ceux par la musique pas forcément par les conférences, mais du coup, d'avoir la possibilité d'avoir un peu les deux,
ouais.
D'un seul coup, c'était ce qui nous avait intéressé en fait.
Et puis ce qui est super intéressant, c'est qu'à la base, voilà, toi, t'es passionné de musique, tu voulais faire un festival, mais tu t'es dit, ok, je vais pas juste faire de la musique. Derrière la musique, on peut mettre autre chose. Et en plus, c'est là que je trouve que c'est intéressant, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de tiers-lieux, et ce genre de projet, en fait, c'est... On les voit naître en fait que dans des lieux alternatifs. On verra pas ça forcément. Enfin, ça existe, mais c'est là que tout s'encastre bien. Charlotte,
et comment tu vois ce genre de festival évoluer dans la capitale de demain? Comment est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que c'est amené à changer?
Je crois qu'il y a une demande qui est assez forte. En fait, qui se fait pas forcément sentir, mais qu'il y a une demande qui est assez présente. C'est-à-dire que dès que tu as des événements un peu hors des cadres habituels, où c'est pas dans une boîte, où c'est pas dans un lieu connu, ou par exemple, là, le seul qui me revient à l'esprit, c'était l'été dernier, tu avais Durvim, Equipe Deep et Vriche qui avaient organisé un événement à une vingtaine de minutes de Paris, sur un lieu totalement vierge. Et en fait, rien que le fait que ce soit un peu loin, qu'il y ait un peu d'animation en journée, qu'il y ait un petit peu de, voilà, autre chose que simplement de la musique, de la fête, des personnes qui sont là. Bah, ça intéresse pas mal les gens. Mais après, le truc, c'est que c'est bien d'avoir de la musique, mais justement, ce que disait Laura, c'est que c'est plus intéressant d'avoir quelque chose derrière la musique. C'est bien d'avoir de la musique, mais c'est mieux d'avoir encore des choses qui... Parce que, voilà,
il y a quelque chose derrière.
C'est ça.
Donner
la musique,
un peu
c'est de la
sens à un festival, quoi.
C'est ça. Un festival et de la musique, c'est de la rencontre, donc il y a autant de choses qu'on peut mettre dans la rencontre, plus que uniquement ça.
Et justement, là, on va recevoir Opsimo, qui va nous raconter un peu son expérience. Mais d'abord, on va écouter son son.
Thank you.
Thomas, là, on va être en ligne avec un des artistes de ton festival.
Bonjour.
Bonjour. Déjà, comment est-ce que toi, tu as ressenti cette expérience alors du Nomos Festival? Parce que c'était pas un festival traditionnel. Tout l'espace était quand même particulier.
C'est cool parce que j'habite à Bordeaux, donc rien que le fait de monter à Paris, ça me fait bien plaisir. En plus, on avait discuté assez longtemps avec Thomas. Il montait un peu le festival. Et je connaissais pas du tout ce lieu-là, le P7. Donc c'était.
Comment pour toi c'est quoi le P7 quand t'es arrivé, tu t'es dit quoi?
Bah déjà le premier truc que tout le monde voit, je pense, c'est les écrans géants qui sont sur le bâtiment qu'on voit à l'extérieur. En plus j'ai vu mon nom en gros, donc ça me fait.
Ah ouais, c'est sympa.
Ça me fait mal. C'était cool. Et après tout s'est bien passé. Hein. J'ai.
L'intérieur comment c'était alors du coup?
Bah, c'était une sorte de bar avec une petite scène aménagée, donc ça reste bien convivial.
Ouais.
Et tout le monde était hyper cool. Un groupe de potes qui s'appelle Lobby a joué un petit peu avant moi. Et donc c'était marrant aussi de voir d'autres potes bordelais jouer le même soir. Et après, les gens ont bien réagi, j'ai eu des bons retours, donc je pense que ça s'est très bien passé.
C'est-à-dire que là, tu étais dans un espace quand même particulier. En quoi c'est différent pour toi d'une salle de concert? Est-ce que la relation avec le public, elle est différente? Est-ce que toi, pour t'exprimer, ça t'apporte quelque chose d'autre? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'après-coup, ce que tu as ressenti?
C'est sûr que j'étais proche du public. On voyait plus le ressenti qu'avaient les gens en face de moi envers ma musique. Et après, ça me change parce que d'habitude, j'ai un écran avec un vidéoprojecteur derrière, etc. Donc là, c'était un peu plus brut, on va dire.
Oui.
Mais c'était pas du tout déplaisant, c'était très bien. Et ça me donne envie de remonter à Paris pour faire d'autres concerts.
Pour investir même peut-être d'autres tiers-lieux, parce que du coup, le P7, là où tu étais, c'est un tiers-lieu. Est-ce que toi, plus tard, t'imagines que les artistes, en fait, est-ce qu'ils vont continuer à jouer dans des salles de concerts traditionnelles? Est-ce qu'ils vont continuer à investir des festivals, ou est-ce qu'ils vont essayer de créer réellement une expérience derrière? Est-ce que dans 10 ans, les artistes, comment ils se lancent?
C'est une dure question. Je pense que il y a plein de scènes, festivals différents. Je pense que chaque lieu est assez unique, donc qu'il n'y ait pas un seul type de lieu, une seule salle avec 500 personnes ou avec 200 personnes, c'est bien.
C'est bien que ce soit...
Que des lieux différents, quoi, voilà.
Super.
C'est unique.
Il y a une chroniqueuse qui est sur le plateau 9 mètres carrés, parce que tu n'es pas que avec Thomas et moi. Il y a aussi Charlotte et Kenza. Et Charlotte aimerait te poser une question.
Et qu'est-ce que Bonjour. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce concert?
Déjà, c'est un public que je connais pas forcément, vu que le public parisien, je le connais pas bien. Quand je joue à Bordeaux, je suis... C'est tout de suite plus évident parce que j'ai ma bande de potes qui me soutiennent, etc. Donc, ça, je pense que ça fait découvrir ma musique à d'autres personnes. Donc,
merci beaucoup.
Ok.
Et à bientôt sur Paris.
Oui, carrément. À bientôt. Merci beaucoup.
C'était une émission un peu particulière aujourd'hui parce que 9 mètres carrés, en fait, ça a lieu à Grand Contrôle. C'est l'esprit même du tiers-lieu qui nous a permis d'investir ce lieu. Moi, j'ai découvert l'année dernière, j'ai rencontré Mathilde, et là, on a vécu une belle expérience, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici aujourd'hui. Peut-être que les tiers-lieux, si on n'arrive pas à donner de définition, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est que c'est quelque chose qui prend corps, qui évolue avec les époques. Je pense qu'un tiers-lieu, dans 2 ans, ça n'aura rien à voir avec un tiers-lieu aujourd'hui. Mais c'est bien, en fait, qu'il y ait une définition.
C'est bien, oui.
Exactement. Et en fait, si on donne une définition, c'est peut-être juste parce qu'aujourd'hui, ça commence à prendre de la place et on en a besoin. Et dans 10 ans, Grand Paris aura lieu et peut-être qu'il sera complètement auréolé de tiers-lieux partout. Alors, merci beaucoup, Charlotte. Merci, Kenza. Merci, Anaïs, pour ton beau reportage à Cité Fertile. Merci à PA, notre super ingé son. Merci à Camille, en chef d'édition, qui nous a aidé à la préparer. Je remercie également toutes les personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui. On avait beaucoup de monde. On avait Thomas Millet, on avait Obsimo, notre artiste, et puis on avait Mathilde Giraud. Et voilà, je vous dis... alors là, en fait, aujourd'hui, à Grand Contrôle, il fait très beau. On parlait de neige il y a un an, soi-disant, Grand Contrôle était sous la neige. Et là, Grand Contrôle est sous le soleil. Et on va tous aller après se retrouver. On vous remercie et envoyez-nous des photos de vos 9 mètres carrés.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.